Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Jean-Georges Kibogora.
Vous suivez la radio Nzamba à Kakaoué, c'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. Le lieutenant-colonel Patrice Mania, qui n'en est plus, il a succombé hier aux blessures qu'il a eues en début de ce mois lors des combats à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis beaucoup de Burundais demandeurs d'asile en Suisse se voient forcés de rentrer chez eux. Les organisations indépendantes de la société civile burundaise dénoncent un non-respect de la loi dans le traitement de ces Burundais. Enfin, la vie devenue très chère au Burundi ne permet pas de célébrer les fêtes de fin d'année comme la fête de la nativité. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Le lieutenant-colonel Patrice Maniakiza est mort la nuit dernière après avoir passé plus de 20 jours hospitalisé à la clinique Tanganyika-Kaya où il avait été admis à la suite des blessures subies lors des combats dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Il avait été blessé en début de ce mois de décembre. Beaucoup de militaires avaient demandé que cet officier supérieur soit évacué à l'étranger pour y recevoir des soins de santé appropriés vu la gravité de son état de santé. Les précisions avec Pierre Gaon.
Selon des informations fournies par des sources militaires à la radio Nzamba à Katekakawe, le lieutenant-colonel Patrice Manirakiza, qui commandait le 18e bataillon de la TAFOC, est décédé après 3 semaines d'hospitalisation à la clinique privée Tanganyika Care. Des appels avaient été lancés pour une prise en charge médicale plus adaptée, allant jusqu'à demander son évacuation hors du Burundi afin qu'il bénéficie de soins spécialisés. Ces demandes étaient motivées par le fait que de nombreux militaires blessés lors des combats en RDC sont transférés vers des cliniques privées, les hôpitaux militaires étant jugés insuffisamment équipés pour traiter des blessures graves. Les sources expliquent que les blessés légers sont pris en charge dans les hôpitaux militaires, tandis que les cas les plus graves sont orientés vers des structures privées ou vers une clinique mobile située au camp des CR Pacifique de Guantanamo à Lukalamu, où se trouve également une morgue laissée par les anciennes missions des Nations Unies au Burundi, notamment l'ONUB. Ces militaires rappellent que par le passé, lors des conflits opposant l'ancienne armée ex-FAB au mouvement rebelle, dont le CNDD-FDD, tout soldat grièvement blessé faisait rapidement l'objet d'une commission médicale organisée par l'État et l'INSS en vue de son évacuation à l'étranger pour des soins spécialisés. La plupart étaient alors soignés au Kenya, en Afrique du Sud ou en Inde. Ils s'interrogent sur le fait que de telles mesures ne soient plus appliquées aujourd'hui, alors même que les moyens financiers de l'État et de l'armée se sont améliorés par rapport à cette période, d'autant plus que le Burundi est plus engagé dans des missions extérieures de maintien de la paix. Ils estiment que la santé d'un soldat blessé devrait être une priorité absolue, sa première richesse étant sa vie, qu'il a consacrée au service de la nation. Le lieutenant-colonel Patrice Manirakiza vient ainsi s'ajouter à une longue liste de militaires décédés après avoir été transférés dans différents hôpitaux, dans l'espoir de sauver leur vie.
Et ce mardi, 19 organisations indépendantes de la société civile burundaise ont envoyé une correspondance à la conseillère fédérale de la Suisse pour dénoncer les actes de persécution dont sont victimes aujourd'hui les demandeurs d'asile burundais dans ce pays pour les forcer à rentrer chez eux. Ces organisations trouvent que ces actes de persécution sont contraires aux conventions internationales en matière des réfugiés que la Suisse a ratifiées. Elles demandent aux autorités de la Suisse de se saisir. On écoute Maître Lambert Nigalula, président de la CBCPI, une des organisations signataires de la correspondance.
Et nous avons été informés de la situation grave des demandeurs d'asile burundais de 2015. Et actuellement, ils sont persécutés par la police et les autorités suisses. Ils sont arrêtés, ils sont malmenés, ils sont forcés de rentrer au Burundi, ce qui est quand même grave comme état, surtout aux Européens qui a signé la Convention européenne des droits de l'homme, parce que cela est contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. mais aussi on a rappelé aux autorités suisses leur place et leur rôle dans la protection des droits de l'homme. Comme vous le savez, la Suisse héberge le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les grandes organisations humanitaires ont leur siège en Suisse. Et vous savez que le HCR, le CICR et la Croix-Rouge ont leur siège en Suisse. Donc c'est tout à fait incompréhensible qu'un État démocratique comme la Suisse puisse exercer une pression, malmener ceux qui sont venus leur demander une protection internationale. Et ceci aussi est contraire au discours des autorités suisses devant le Conseil des droits de l'homme. Et vous savez, lors du rapporteur spécial des Nations Unies sur le Burundi, la plupart des pays européens se sont montrés préoccupés par la situation au Burundi. Ils ont clairement démontré leur inquiétude par rapport à la persistance des crimes, de l'impunité généralisée, des violations graves qui continuent à se commettre en toute impunité au Burundi. Et le discours aussi de la Suisse était dans ce sens. Il s'est préoccupé par ce qui se fait au Burundi. Donc, nous sommes étonnés de voir les autorités suisses aujourd'hui en train de malmener, de rapatrier par force et amener les demandeurs d'asile devant les autorités d'un pays qu'ils ont fui. Parce que ce que nous avons entendu, c'est que maintenant, les autorités suisses arrêtent les Burundais, les amènent à l'ambassade du Burundi à Genève pour solliciter un laissez-passer, un document de retour forcé. Cela donc est contraire à toutes les conventions que la Suisse a signées. Cela est contraire à une politique des États européens, parce qu'on ne peut pas refouler par force une personne vers un pays où il risque torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Inzamba.
Dans l'actualité de ce mercredi, le monde entier célèbre demain le jour de la nativité, la Noël. Beaucoup de citoyens burundais affirment que c'est difficile aujourd'hui de célébrer les fêtes de fin d'année comme la Noël à cause de la vie qui est devenue extrêmement chère. Ils disent que la joie et le partage avec les proches sont quasi impossibles. Écoutez ce que se sont confiés à notre rédaction.
Pendant ces fêtes, les Burundais vivent dans des conditions très difficiles. Le problème des transports, le commerce en difficulté et la pauvreté dominent. Tout cela est causé par un mauvais gouvernement qui ne se soucie pas de la population, mais cherche seulement ses propres intérêts. Les fêtes de fin d'année ne sont plus célébrées comme autrefois. Avant, les parents faisaient le shopping pour leurs enfants et leur achetaient de nouveaux habits et autre chose. Aujourd'hui, même les fonctionnaires de l'État vivent dans la précarité. En vérité, les fêtes se passent dans la tristesse. Nous avons perdu des proches, nous avons été témoins de nombreuses souffrances. Mais, malgré tout, Dieu est là.
Autrefois, les fêtes de fin d'année étaient célébrées avec joie. Les parents achetaient des vêtements pour leurs enfants et pour le nouvel an. On préparait à manger afin de partager un moment de bonheur en famille. Mais aujourd'hui, la pauvreté domine. Les prix ont fortement augmenté au point que l'on ressent de la honte devant ses enfants lorsqu'on entend que Noël est arrivé. Il n'y a plus rien à célébrer. En cette période, la misère nous frappe durement.
Le coût de la vie a énormément augmenté dans ce pays. Tout est devenu cher. Les propriétaires augmentent les loyers tandis que nous, au travail, nos salaires n'ont pas été revus à la hausse. Nous courons toute la journée pour gagner un peu d'argent qui ne suffit qu'à payer le loyer. Se nourrir est devenu un grand défi à cause de la hausse des prix.
Dans le domaine de la bonne gouvernance, les réformes qui ont été initiées par le gouvernement burundais dans le secteur de l'éducation n'ont pas été bien étudiées et cela aura des conséquences néfastes sur la vie socio-économique du Burundi selon le constat de l'OLICOM. Gabriel Roussili, son président, fait une évaluation négative parce que selon lui, les postes de responsabilité ont été confiés à des cadres incompétents. C'était dans une conférence de presse de ce mercredi. On l'écoute.
On a compris qu'il est guéri, qu'il est là, éducation. Celui qui veut faire reculer un pays détruit le système éducatif. Imaginez un médecin qui va soigner les gens alors qu'il n'a pas les capacités requises. Il tue les gens. Celui qui va construire des routes, des maisons alors qu'il n'a pas été bien formé. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui est affecté dans ceci ou cela, celui qui va travailler dans des laboratoires alors qu'il n'a pas bien étudié, il va commettre des dégâts. L'éducation, c'est la base même du développement. Dans la vision, il y a l'objectif de développer le secteur de l'éducation. Mais il ne faut pas continuer à dire qu'on se suffit. Qu'ils acceptent de traiter des gens compétents, capables de trouver solution aux problèmes qui hantent le pays. Je pense que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Regardez cette découpage administratif qu'ils ont initié. Avez-vous vu en ce pays au monde qui ne dispose pas de la mairie? Le Burundi est unique dans ce genre. Nous avons même adressé une correspondance aux autorités du pays pour qu'ils fassent tout afin de remédier à cette situation. Imaginez dans cette loi de découpage administratif, nulle part n'est mentionné la mairie. Je vous dis, les problèmes qui s'observent ici en mairie de Bujumbura sont énormes. Certaines taxes sont perçues par la province, d'autres sont perçues par les communes. C'est du désordre total.
Gabriel Ossili qui regrette aussi qu'au cours de cette année, les marchés publics ont été attribués sur des critères non objectifs sans appel d'offres. Il cite notamment le marché des intrants agricoles. Encore une fois, Gabriel Ossili.
Ces histoires d'intrants agricoles, vous voyez, ils ont été accordés, ils ont accordé le monopole à une seule personne. Certains sont importés, d'autres sont fabriqués ici. Souvenez-vous, Gervais Ndirakobucha, président du Sénat, quand il était Premier ministre, il a dit que ces intrants chimiques détruisent le sol cultivable. Est-ce que c'est moi le Fili qui l'ai dit? Ils l'ont dit. Alors, une question qui se pose pour des propos tenus par une haute personnalité comme celui-là. Quelles sont les études qui ont été menées pour voir si réellement ces intrants ne détruisent pas le sol, sans parler des conséquences néfastes sur la santé des gens? On ne sait pas. Car il dit que ces intrants posent problème et qu'il n'y a pas de changement, c'est un problème. Il y a la qualité d'abord pour le sol. Deuxièmement, il y a des gens qui paient les intrants, mais qui ne les reçoivent pas. Franchement, ce que nous demandons au président de la République pour cette année à venir, qu'il supprime le monopole, qu'il y ait des appels d'offres pour les marchés des minéraux, des intrants, des avocatiers, ceci ou cela. Franchement, que les marchés soient accordés à des gens capables et compétents.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.